I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mise à mal.
Être fidèle à l'infidélité.
C'est ça le titre?
Peut-être.
C'est la fidélité à l'infidélité.
Oh, d'accord, vas-y. La fidélité à l'infidélité.
Ben, on saura après le Covid qu'on a de la chance de faire la fête.
Ouais, c'est clair. Si ça revient.
Si, ouais.
Pessimisme, bon.
Allez, boum.
Si on n'est pas tous morts d'ici là.
Salut Théo.
Salut Flo.
Et salut les applaudiqueurs, c'est le nom de notre communauté, n'est-ce pas, parce qu'on est influenceurs. Aujourd'hui, on va parler de la fidélité et l'infidélité. Et le cliché qu'on essaie de mettre à mal, c'est que, alors il y en a plusieurs. Un des clichés qu'on a vu, c'est que les hommes glorifient l'infidélité, que c'est vachement plus accepté d'être infidèle, voire c'est valorisé quand on est un homme.
Exactement. Un cliché qui découle aussi, c'est que c'est plus souvent les hommes qui sont infidèles que les femmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
Voilà. Et un autre cliché, c'est que être infidèle, c'est un truc de connard ou un truc de connasse. Et on va voir si c'est vraiment ça le cœur du sujet ou pas. Et pour traiter de ce sujet, aujourd'hui, on reçoit Jojo.
Salut, salut.
Et on reçoit aussi Lily.
Salut.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose dont on s'attend pas la première fois qu'on vous rencontre?
Alors, je pourrais peut-être plus simplement le dire l'une pour l'autre.
Ah, nice.
L'avantage d'avoir 4 micros, parce qu'on avait que 3 micros avant, mais alors maintenant ouais. Un monde de possibles s'ouvre à nous, quoi. C'est incroyable.
Alors, qu'est-ce qu'on soupçonnerait pas de toi? Moi, je dirais que toi, on soupçonnerait pas que t'as une vraie conscience environnementale. Au premier abord, on le verrait pas.
Moi, je dirais qu'on dirait pas du coup que d'après ton expérience avec des amoureux, t'as l'habitude généralement de les tromper.
Alors, je dirais pas habitude, mais j'en ai trompé beaucoup, effectivement.
Voilà. Ouais. Trompeuse professionnelle.
Je sais pas si on peut dire habitude.
Ouais, c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir ton point de vue. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un tour peut-être d'anecdotes de votre rapport à l'infidélité?
Je sais pas si c'est une anecdote en particulier à partager ou si c'est plutôt de dire que jusqu'à une certaine période de ma vie, j'ai toujours trompé mes copains. Un peu en voyant ça comme un mécanisme de protection par anticipation de moi-même, quoi. Et que la première fois que j'ai pas trompé mon ex, ça a été selon moi un facteur, un levier hyper fort de enfin ça a énormément contribué à me faire vivre une histoire que j'ai, enfin une histoire hyper forte et qui a été à ce jour la plus belle histoire et l'histoire la plus vraie que j'ai vécue, quoi. Et donc voilà, c'est pas une anecdote spécifique, mais c'est plus un regard sur l'infidélité qui selon moi est un petit peu dans le cadre d'un couple exclusif qui est un petit peu contre-productif avec ce qu'on essaye de construire, en fait. De tromper, c'est un mécanisme de fuite qui ne permet pas de vivre une relation entièrement.
Ouais, pour toi, c'est un truc de sabotage, quoi.
C'est sabotage, mais pas forcément qui se dirige contre la personne avec qui on est, mais qui peut se formaliser par plutôt une crainte d'être vulnérable face à l'autre. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, et ce qui faisait que j'étais à l'aise avec ça, et d'autant plus à l'aise que je dissociais complètement le fait d'avoir une aventure complètement défaite, enfin détachée de ma relation, du fait que la personne avec qui j'étais, qui était la personne avec qui j'avais envie de dormir, la personne avec qui j'avais envie de parler, la personne avec qui j'avais envie de passer des heures à rien faire. Et donc pour moi c'était deux choses très différentes et mon discours public c'était beaucoup, et là je suis très très longue, mais mon discours public c'était beaucoup tant que je signe pas de contrat je ne suis engagée à rien, et en fait ce que je fais en dehors de mon couple ne regarde que moi, c'est mon intimité, et tant que je ne vais pas intentionnellement faire du mal à la personne, c'est ok. Et aujourd'hui c'est plus du tout comme ça que je vois les choses, mais je pense aussi que d'une certaine manière, j'ai grandi d'âge, donc je vois autrement le couple et j'ai grandi de mes expériences, quoi.
Et quelle forme aurait pris un contrat signé avec quelqu'un?
Le mariage.
Ah ouais, c'est-à-dire qu'avant, tu te disais, vas-y,
Ouais. Donc,
potentiellement, je peux fauter.
Bah, je me disais, on est libre jusqu'à temps qu'on on est libre jusqu'à temps qu'on se signe un contrat qui dit qu'on veut être fidèle, enfin qu'on est exclusif.
D'accord.
Avant ça, on est.
Et ton approche du coup, c'était vraiment de dire, en fait, pas vu, pas pris quelque part.
C'était pas tellement pas vu, pas pris. C'était plus. En fait, c'était aussi beau. C'était beaucoup des relations à distance. Et donc, c'était un peu. Bah, je suis ailleurs, c'est ma vie ici versus ma vie là-bas. Et en attendant, le fait que je pécho ce mec ou que je passe la nuit avec ce mec, ça remet absolument pas en question l'affection et la relation que je suis en train de créer avec l'autre à côté, parce que on parle pas des mêmes choses, quoi. Il y a ce que tu fais une nuit avec trois verres dans le nez et l'intention que tu portes et le temps que tu dédies et que tu investis auprès de quelqu'un d'autre pour développer une relation. Mais aujourd'hui, je suis plus trop d'accord avec ce discours-là. Donc je suis un peu schizophrène, mais enfin, ou alors j'ai cheminé. Mais en tout cas, c'était comme ça que je le voyais avant, quoi.
Après, c'est vrai que les relations à distance, c'est toujours un peu plus particulier, on va dire.
Ouais, mais tu vois, en étant aujourd'hui en relation à distance, c'est clairement pas comme ça que je le vois, quoi.
Non seulement être en relation à distance, c'est difficile pour ton couple, mais en plus, de l'autre côté, c'est très facile pour tromper aussi. Parce que du coup, tu risques pas de croiser quelqu'un qui te connaît ou qui... Enfin, c'est l'écart de difficulté se creuse tellement entre l'adultère et la fidélité que c'est difficile de pas en profiter, quoi, tout simplement.
Et puis je pense aussi que à 18 ans et à 20 ans, je me projetais pas sur des relations nécessairement très long terme. Je même si j'ai pu être très amoureuse, j'étais pas prête à me dire c'est la personne avec qui je veux passer ma vie. Aujourd'hui, je dis pas que la personne avec qui je suis aujourd'hui, je veux passer ma vie avec elle, j'en sais rien, mais en tout cas, je suis dans une phase de ma vie où je me vois moins multiplier les histoires et plus construire des choses qui vont peut-être me donner envie de pas vivre autre chose de plus de nouveau, quoi.
Et ce qui est bien, c'est que te mettre dans cet état d'esprit là, t'aurais pas vraiment pu le faire si t'avais pas justement multiplié les histoires avant aussi.
Exactement, ouais.
Mais il y a le truc à distance où c'est un peu virtuel, ton couple il tient pas vraiment dans la réalité quotidienne, t'as pas de tendresse, t'as pas vraiment de rapport physique à l'autre, enfin c'est aussi une question de vibration d'être avec quelqu'un, et quand il est plus là, c'est compliqué, quoi. Donc du coup, je peux comprendre que tu aies été au gré aussi de tes envies. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans ta relation à distance, tu le conçois plus de la même manière, parce que le contexte est pareil, c'est ta mentalité sur le sujet qui a évolué.
Il y a plusieurs choses. Il y a ma mentalité sur le sujet qui a évolué parce qu'entre temps, j'ai vécu une relation et à distance et dans la même ville sans tromper, et je me suis rendu compte de la différence que ça avait représenté pour moi de pas tromper. Ce que ça a représenté pour moi de pas tromper, ça a été, de me sentir plus vulnérable. C'est-à-dire que j'étais complètement, si la personne décidait de me faire de la peine, elle me ferait beaucoup, beaucoup plus de peine que si d'emblée j'avais trompé et que du coup, d'emblée, j'étais détachée. Enfin, c'était un petit peu ça la logique. C'était être détaché avant d'avoir mal, quoi. Et en passant 2 ans avec quelqu'un sans l'avoir trompé, oui, ça a fait hyper peur. Mais en même temps, j'ai vécu le truc le plus fort de ma vie. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vivre aujourd'hui. Donc du coup, je joue le jeu et je veux pas tromper parce que je veux pas casser une relation dans l'œuf. Je veux pas casser une dynamique dans l'œuf. Et je pense aussi que la personne avec qui je suis aujourd'hui, je ne veux pas la tromper. Parce qu'il y a aussi eu ce fit, quoi. Il y a eu là j'ai eu un petit, c'est récent, mais j'ai eu un crush qui fait que ouais, j'ai l'impression que ça pourrait être une vraie histoire, et donc du coup c'est pas quelque chose que j'ai envie de saboter, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais, et c'est vrai que la peine que tu peux éprouver potentiellement sur une rupture ou quelque chose que l'autre fait que t'as pas contrôlé, que t'as pas envie qu'il ait pu faire, elle est proportionnelle aussi à l'attachement que tu lui portes. Donc c'est un risque que tu dois prendre dans une relation, de te dire en puissance je peux être peinée de la même manière que je suis très heureuse. Enfin,
exactement.
C'est un risque que tu prends dans les deux sens, quoi. Parce que du coup, quand tu trompais, c'était pour te détacher émotionnellement, pour moins souffrir. Mais est-ce que du coup, t'avais l'impression que ça te détachait aussi du plaisir que t'avais à être avec l'autre?
À l'époque, non, mais parce que j'avais jamais vécu sans tromper, quoi.
Ouais.
Et aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que j'en suis, entre guillemets, revenu. En gros, à l'époque, c'était que ça que je faisais, en fait. J'ai tout de suite fait ça. Et donc, du coup, c'était juste ma manière à moi de me sentir en position de, si ce n'est pas force, en position de juste être, de pas avoir peur, quoi, et de pas être dans l'attente d'avoir de la peine, quoi.
Ouais, c'est une forme de contrôle, quoi. Tu sais, t'as balisé le terrain et t'es tranquille.
Ouais.
Et tu te rendais pas compte que ça pouvait potentiellement un peu... niquer ta relation ou tes sentiments.
Ouais, non, je le voyais pas du tout.
Et c'est aujourd'hui que, avec le recul, en comparant, tu te rends compte que peut-être tu t'investissais moins au niveau des sentiments.
En fait, je m'investissais pas tellement moins. Et en fait, c'est marrant parce que je regrette pas. Et je pense que j'ai un peu été influencée par ma mère là-dessus, qui, enfin ma mère que j'admire sur à peu près tout. Elle a un esprit que je trouve très libre et très ouvert, et qui que j'ai souvent entendu me dire, le but c'est pas de dire je trompe pas, le but c'est d'avoir confiance, ou c'est d'être bien dans ce que tu vis. Et du coup, j'étais bien dans ce que je vivais, et je pense que si je trompais pas, j'aurais pas été bien dans ce que je vivais, parce que je me serais sentie trop dépendante d'une personne en qui j'avais peut-être pas une très grande confiance, ou avec qui je me sentais peut-être pas forcément super à l'aise.
Et est-ce que du coup, qu'est-ce qui change dans le fait de signer un contrat, dans ton rapport à l'adultère, ou des mots qui sont pas très, qui sont très connotés, mais tu vois, dans le fait de tromper, quoi?
C'est un peu simplet, je pense, comme réponse, mais c'est que c'est signé, c'est que c'est dit, en fait. Il y a, c'est dit, si tu te maries, mariage entre guillemets conventionnel, tu te jures fidélité, quoi. Et en fait, au-delà de ça, parce que en vrai c'est pas, j'attache pas mes actions à un bout de papier en tant que tel, mais au-delà de ça, c'est de me dire la personne avec qui je me marie, c'est une personne que je choisis pour la vie. Et en gros, l'engagement que je veux prendre avec quelqu'un, c'est se choisir tous les jours, c'est-à-dire mettre l'intérêt de la personne avec qui je suis à minima au même niveau que les miens. Et de fait, si je mets les intérêts de la personne avec qui je suis au même niveau que les miens, j'en prends soin, en fait, et je mets pas en péril la confiance qu'il peut avoir et le cocon qu'on est en train de créer. Et si la base c'est la fidélité, du coup je serai pas la personne qui viendra l'abîmer, quoi.
Mais tu viens de le dire, c'est important, c'est pas tant le papier que tu signes qui fait que maintenant c'est bon, c'est le choix que tu fais.
Oui.
Répéter, de manière consciente, que c'est toi qui décides, et c'est
exactement.
Ouais, ok.
Et du coup, pour rebondir là-dessus, l'important c'est pas le papier que tu signes, mais du coup, est-ce que ça voulait dire que, avant de se projeter dans le mariage, des moments dans une vie de couple où même quand il y a, tu sais, ce moment, ces quelques mois un peu chelous quand tu commences à rencontrer quelqu'un et à le fréquenter, il y a un moment où t'as la discussion de dire est-ce qu'on est ensemble ou pas, et potentiellement la discussion sur est-ce qu'on est fidèle, elle arrive beaucoup plus tôt qu'un contrat de mariage que tu signes en mairie. Et t'as jamais été confronté à ces moments-là où avec un mec, ça se passe bien, et vous vous dites, on va voir ailleurs ou on va pas voir ailleurs.
Hein, pécheresse.
C'est une belle insulte, pécheresse.
Figure-toi que c'est pas arrivé dans 100% des cas que j'ai eu cette conversation, ça a plutôt été rare, mais j'ai déjà eu la conversation de l'exclusivité, et pour autant, j'ai trompé, mais c'est cette tromperie que je considère être un peu en marge de celle des tromperies de ma jeunesse, on va dire, qui était plus c'est la plus récente que j'ai vécue, que l'infidélité que j'ai commise en tant que pécheresse, mais c'était plus une infidélité de détresse et de qui visait pour moi à apporter des réponses à des questions auxquelles j'étais pas en mesure de répondre sans le faire.
Le parallèle que je fais là-dessus, c'est la différence de coucher en soirée pour trouver quelque chose et coucher en soirée parce que t'as envie de le faire. Et c'est à peu près la même chose de se dire je vais tromper pour m'assurer que je suis pas en danger, ou je vais tromper parce qu'en fait j'ai juste envie de kiffer.
Je vois ce que tu veux dire, mais alors ce qui est peut-être un autre parallèle à rajouter à ça, c'est que j'ai trompé avec des gens, avec des nobody entre guillemets, toute ma vie, quoi, avec des gens qui, en mode soirée, je m'en fous, et c'était hyper dissocié. Celle dont je viens de parler, c'était vraiment une personne qui me pollue la tête, quoi. C'est pour le coup, c'est un peu différent. C'était j'ai commencé une histoire avec un mec, et il y a ce mec-là, je sais pas si Lily, toi tu vois de quoi je parle, ou si vous aussi les gars vous avez déjà eu ça, mais cette personne avec qui t'as jamais eu le bon timing, avec qui il y a un truc qui se passe, et il y a une tension qui est palpable, et à chaque fois que tu la vois, c'est presque électrique, et en même temps jamais le bon timing, et quand ça pourrait être le bon timing, en fait t'en as pas envie, un truc hyper ambigu, genre un peu pourri. Et il s'avère que ce mec là il a ressurgi dans ma vie à un début, alors que je me lançais dans une histoire avec un autre mec, et en l'occurrence l'histoire avec l'autre mec avait un démarrage un peu difficile pour plein d'autres raisons que je vais pas forcément développer ici, mais du coup j'étais pas en mesure de me donner les meilleures chances de voir ce que ça pouvait donner avec mon mec avec qui je venais de me mettre à l'époque, sans enfin me dire c'est toujours pas le bon timing, mais en fait là si j'y vais pas et si je vais pas au bout de ce truc, je le saurai pas, et je vais me laisser pourrir la tête par du et si, et j'avais pas envie, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je voulais donner sa meilleure chance à mon histoire avec mon nouveau mec, et ça me semblait pas possible sans passer par cette infidélité là
parce que tu lui aurais fait payer si tu l'avais pas fait.
Ouais, ou en tout cas, moi, j'aurais pas réussi à être entièrement dédié à mon histoire, quoi. J'aurais pas eu la tête dedans, quoi.
Mais c'est vachement intéressant ce que tu dis. Moi, je suis persuadé que la seule bonne raison, entre guillemets, à l'infidélité, c'est l'amour. Mais pas la... En tout cas, le non-jugement, ça se passe bien.
Dans la saison 2.
Et pas forcément l'amour pour la personne qu'on trompe, même si, comme tu l'as dit, toi, de ton prisme, c'était aussi une façon de lui laisser sa chance en disant, bon, ça, faut que je m'en débarrasse maintenant, tant qu'on est dans les premières semaines, premiers mois, parce que si ça se passe bien, je peux pas laisser ça traîner dans un coin de ma tête.
C'est exactement ça.
Et moi, dans l'autre sens, par amour, je me dis, mais moi, je m'imagine pas du tout être infidèle ou tromper quelqu'un. Mais pourtant, je connais le sentiment d'être amoureux, d'avoir un coup de foudre violent, profond. Et le jour où ça t'arrive, mais en fait, limite, pour moi, t'as pas le choix. Enfin, t'as le choix de bien faire les choses et de rompre avec une personne avant d'entamer autre chose. Mais parfois, c'est aussi l'alignement des planètes à une soirée ou machin. Et ça, c'est vachement difficile. C'est que quand t'es en couple avec quelqu'un qui a d'un côté la routine et de l'autre une passion nouvelle et vraiment la nouveauté, c'est très très difficile de pas faire le choix de l'infidélité en fait quand tu parce que il y a un déséquilibre qui est beaucoup trop important quoi.
Ouais. Et du coup on reviendra sur des petits trucs au fur et à mesure
avec
mais pour te donner la parole Lily, toi quel est ton rapport à l'infidélité, quel est
alors moi mon rapport à l'infidélité, bon l'infidélité je la comprends. Je trouve que c'est parfois naturel quand t'es dans une longue relation de voir et le voir ailleurs. Je l'ai déjà fait, d'ailleurs. Ça m'est arrivé de le dire, à mes dépens aussi, parce que c'est pas forcément évident de dire en face à quelqu'un que tu as trompé. Mais de manière générale, actuellement, j'ai un certain respect de la fidélité. Ça va être un peu ma jauge, en fait, de vouloir rester avec quelqu'un en me disant, si j'ai envie de le tromper, ça veut dire qu'en fait, c'est peut-être bête, c'est peut-être qu'il y a que moi qui vends ça, mais en fait, j'aime pas vraiment.
De tromper.
Bah, si j'ai envie de le tromper, ça veut dire que
c'est qu'il y a des questions à se poser.
C'est qu'il y a quelque chose qui va pas.
Ouais.
Parce qu'en fait, là, bon, par exemple, je suis en relation, tout se passe bien, j'ai pas eu une seule fois envie de le tromper, et ça m'est déjà arrivé dans des relations antérieures, où tout se passait bien, et j'avais pas envie, et dès qu'il y avait quelque chose qui allait pas, là, je commençais à regarder ailleurs, et là, je commençais à me dire, ah, mais en fait, pourquoi pas aller voir ailleurs, genre, l'herbe, elle est plus verte. Donc, en fait, pour moi, c'est un peu mon jus, enfin, ouais, ma jauge, quoi. De savoir si ça va, si ça va pas. Après, je pense que c'est assez personnel, parce qu'il y a des gens avec qui ça va très bien et qui ont quand même envie d'aller voir ailleurs. Donc, ouais. Je pense que là, c'est plus ma vision du couple.
Ouais, c'est fou, parce que du coup, plutôt que de te concentrer, de choisir d'explorer un désir en fonction de l'objet du désir, tu choisis en fonction du contexte dans lequel l'objet du désir s'inscrit, quoi.
Bah, ouais, je pense que c'est assez psychologique, je sais pas.
Mais est-ce que du coup ça veut dire, par exemple là, t'estimes que ça t'est pas arrivé d'avoir envie de tromper la personne avec qui tu es en ce moment. Est-ce que c'est parce que foncièrement ça se passe très bien, ou est-ce que c'est aussi peut-être que les tentations n'ont pas été les mêmes, peut-être que t'as juste pas croisé une personne qui t'a donné aussi envie de.
J'aurais pu. Bon, parce que ça fait quand même assez longtemps, j'aurais pu avoir eu des tentations, ne serait-ce qu'au travail, avec les after-work, etc., en soirée, quand on pouvait y aller. Il y avait quand même pas mal de tentations, mais là, vu que c'est vraiment une relation où ça se passe bien, j'ai pas eu envie.
Mais c'est ça, aujourd'hui, t'as peut-être plus besoin d'éprouver dans les faits la tromperie, parce que t'as su remarquer les indicateurs qui font, bah là en fait je suis en train de penser à quelqu'un d'autre, ou là je suis tenté, bon, en fait c'est juste un indicateur que ça va pas, et t'as pas besoin d'aller jusqu'au bout pour te prouver que ça va pas.
C'est ça, après je me dis bon bah faut que ça s'arrête, et du coup
ouais, maintenant c'est vraiment ton indicateur, genre quand c'est ça c'est
mais
stop,
je sais pas si ça va être mon indicateur toute ma vie, hein, parce que je pense que là actuellement c'est facile mais dans une relation de 10 ans 20 ans ça peut être différent, quoi.
Et puis d'abord c'est
quoi, y a pas de fou qui marche très bien.
C'est quoi avoir envie de tromper, parce que enfin moi dans toutes les avec qui j'ai été, je suis désolé pour toutes celles qui m'écoutent, mais ça m'est toujours arrivé de croiser une fille jolie dans la rue, me dire putain elle est trop mignonne, voilà quoi. Enfin techniquement ça c'est une tentation.
C'est de l'attirance, c'est pas de.
Non ça je me le dis, mais pour moi c'est pas de.
Où est la limite? Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence pour toi entre ah lui je le croise dans la rue, dans le métro il est stylé, et ah lui j'ai envie de, enfin je pourrais tromper mon mec avec. Enfin où est la.
Pour moi, faut pas se voiler la face et se dire on a aucune assurance pour personne tant qu'on est avec quelqu'un, parce que c'est pas vrai. Donc même je peux le dire très librement à mon compagnon en disant bah lui il est vraiment très sexy, quoi.
Après Théo, je pense que la différence c'est quand tu pars en soirée en glissant une capote dans ton porte-monnaie. Là, tu sais que t'es en train de te dire, tu vois, c'est même pas que t'as l'attirance pour quelqu'un.
Et si la capote est là depuis avant ta relation? On l'a tous cette capote qui traîne.
D'accord, mais du coup c'est la différence d'accepter une soirée en disant ah il y a cette meuf là. Et de se dire je vais en soirée, c'est cool. Enfin, il y a toujours ce truc où c'est l'attirance, ça peut être sur le moment, Mais quand tu commences après à un peu réfléchir ou à te dire potentiellement ça pourrait se passer, là déjà t'es sur une pente glissante, je pense.
Ouais, si tu prémédites un peu, je pense.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Mais après, est-ce que le fait de, est-ce que, enfin, c'est un spectre de savoir à qui se sent outré quand, enfin, quand est-ce qu'on considère qu'il y a faute. Je sais pas si on a tous les mêmes, mais pour moi, la faute, c'est justement l'action, parce que c'est le choix qui est fait derrière. Et justement, c'est ce que je suis hyper d'accord avec avec ce que tu dis, Lily. Enfin, on est tous et toutes humains. Enfin, je veux dire, oui. Enfin, non, on ne sera jamais attiré que par une seule personne, et non, on n'aura jamais Dieu que pour une seule personne, évidemment. Mais justement, la question, c'est qu'est-ce que tu en fais de ça, et à quel point est-ce que tu fais passer ton attirance, ton désir, ton instinct un peu primitif au-dessus de la confiance que la personne avec qui tu construis ta vie a en toi et attend de toi d'un point de vue fidélité, quoi.
Pour moi, avoir envie de tromper quelqu'un, faut vraiment inconsciemment avoir envie de lui faire du mal aussi.
Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment...
Avoir l'attirance, c'est plutôt personnel.
Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a vraiment envie de tromper quelqu'un ou plus envie de coucher avec quelqu'un d'autre alors qu'on est en couple? C'est pas...
Toi, Jojo, du coup, t'as pas le... Parce que t'es en train de dire, il est possible que t'aies envie de tromper, mais que tu mets dans la balance l'intérêt de ton partenaire, de ton couple, qu'est-ce qui prévaut. Est-ce que t'es prête, parce qu'en fait quand tu trompes t'es prête à potentiellement sacrifier ta relation, et donc toi c'est pas comme Lily de te dire red flag si j'ai envie de tromper, c'est ok là j'ai envie, mais est-ce que vraiment je vais aller jusqu'au bout, ça t'arrive toi,
est-ce que ça vaut le coup en fait?
Ouais.
C'est en fait c'est à la fois... On pourrait y trouver dans cette position nouvelle qui est la mienne, on pourrait y trouver de la lâcheté, ça quelque part, la lâcheté de pas avoir envie d'assumer la situation où j'ai trompé et je dois choisir entre mentir ou dire, et j'aurais potentiellement la lâcheté de ne pas savoir le dire parce que je l'ai jamais dit. Donc est-ce que j'ai envie de m'infliger à moi-même une situation dans laquelle j'ai ce dilemme-là? Déjà très égoïstement, non. Enfin, je veux dire, ma vie se passe bien, quoi. J'ai pas très envie de galérer. Et deux, si je décide de le dire, est-ce que je veux être la personne qui va imposer ce dilemme et ce choix à la personne en face de moi, à qui je n'ai pas envie de faire de la peine ou de faire du mal ou de mettre dans une situation difficile?
Il y a un truc très vrai dans ce que t'as dit, et moi ça m'est arrivé. Enfin, le moment où j'ai pris conscience de porter la responsabilité de le dire, de potentiellement détruire quelqu'un, etc., c'est que dans mes relations, je m'étais pas posé la question. Je m'étais dit potentiellement je peux tromper et limite ça me regarde et je garderai en secret et je quitterai la meuf ou j'en sais rien. Et je me disais c'est mon problème. Et il y a une meuf un jour qui m'a fait changer d'état d'esprit parce qu'elle m'a dit le deal c'est que tu me trompes pas. Est-ce qu'on peut s'accorder là-dessus? Ok. Et elle m'a dit, et le deuxième deal, c'est que si tu me trompes, il faut que tu me le dises. Comme ça, je te quitte. Et le deuxième critère, j'y avais jamais pensé, quoi. Ça avait jamais été un accord entre nous. Et le fait qu'elle le dise, je dis, oh, putain, en fait, c'est vrai que je suis responsable. J'ai un vrai choix dans ce que je suis en train de faire. Enfin, j'ai une vraie responsabilité. Et je m'en étais jamais rendu compte parce que je m'en étais toujours, j'ai réussi à m'échapper jusque là, quoi.
On parle de tromperie depuis tout à l'heure, mais on n'a pas vraiment défini cet objet-là. Pour moi, tromper, c'est pas forcément coucher avec quelqu'un. La tromperie, c'est la trahison. Et la trahison, elle peut se faire à plein de niveaux. Ça peut être tromper physiquement quelqu'un avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être tromper, et c'est souvent le cas dans les relations libres, tromper quand t'as le droit de coucher avec d'autres gens, c'est pas ça. C'est trahir un système de valeurs, un système de normes, ou là c'était un peu le cas, c'est un système de règles en fait qui a été établi dans ton couple en relation libre. Là non, on s'était dit bon bah voilà, on voit quelqu'un une fois, et si on sent que il y a quelque chose de malsain derrière, que c'est pas que du cul, que c'est il y a des sentiments, on coupe les ponts, on arrête. Et ça en l'occurrence c'est plus de la tromperie vis-à-vis de ces règles du jeu là, où moi j'avais le sentiment, et encore c'est que un ressenti, ça se trouve elle le raconterait pas du tout, ça se trouve dans sa tête elle m'a pas du tout trompé, j'espère que ça lui ôte beaucoup de remords et de culpabilité, mais c'est peut-être de mon point de vue là, moi là où je me suis senti trompé, c'est que je pense qu'elle a vu venir que ce mec là c'était un danger sur le plan des sentiments et aussi de notre couple qui allait peut-être pas si bien qu'elle voulait l'avouer. Et dans ce cadre là c'était une tromperie en fait. Et là pareil, c'est plus le contexte qui est une tromperie que l'objet en fait. Ça aurait pu être avec une autre personne, c'est plus la façon dont elle l'a fait.
Et est-ce que c'est pas le format qui est un petit peu condamné à ce que la fin ressemble à ça? Parce que par exemple, si tu regardes à l'échelle stratosphérique, tu peux, quand ça te concerne pas toi directement et que du coup t'es pas directement touché, tu te dis qu'il y a des relations, la meilleure raison d'arrêter une relation, c'est des sentiments qui ne sont plus là ou des sentiments qui se sont développés ailleurs. Quand t'es dans une relation libre où du coup tu admets que tu peux aller avoir de l'intimité avec beaucoup d'autres personnes, est-ce que l'intimité peut vraiment aller sans sentiment si ça se répète, quoi?
Il y a ce truc, alors pour moi, pour avoir été en couple libre, on s'était fixé des règles, et une des règles, c'était on couche pas deux fois avec la même personne. Si c'est impulsif et que c'est un coup physique et que tu veux y aller, t'y vas. Mais si tu la revois, là, on a un souci. Et c'est pas tant que c'est interdit, mais c'est que si jamais tu veux retourner voir la personne, oui, il y a des sentiments qui sont en train de se développer. S'il y a des sentiments qui se développent, c'est plus l'union libre, c'est du polyamour, je suis plus à l'aise avec ça. Et du coup, il va falloir qu'on se parle, parce que du coup, c'est probable qu'on veuille pas la même chose dans le couple et qu'il faille pas qu'on reste ensemble, quoi. Et ça, c'est juste un sujet. La tromperie, je pense qu'il faut définir les critères ensemble. Et on a souvent peur, quand on se met en couple ou en relation, de se dire quel est le no-go, où est la limite, et des fois, on ment un peu pour plaire à l'autre. Des gens qui veulent des rapports exclusifs mais qui sentent que l'autre est un tout petit peu plus libertin, qui disent non mais si tu vas voir ailleurs c'est ok, alors qu'en fait c'est pas du tout ok, et ça c'est pourri dans l'œuf, quoi.
C'est vrai que les règles qui peuvent être définies au début, elles peuvent changer et évoluer au fur et à mesure d'une relation.
Ouais.
Même au début, on peut se dire aucune règle, enfin aucune tromperie, rien du tout, pas de bisous, pas de coucherie. Et puis après, au bout de 3 ans, on peut se dire bah finalement pourquoi pas. Comme le contraire, on peut se dire au début ok et après bah non. Je pense que c'est important d'en parler.
Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment un facteur de santé du couple, de se réactualiser et d'en parler, de pas laisser l'ambiguïté, parce que l'ambiguïté ça te dessert toujours, et de se dire bon bah voilà. Et de pas attendre la crise où tu te dis vraiment j'ai envie de, et tu te retrouves en soirée à pécho et te dire bon bah là faut que j'en parle, mais j'ai déconné, et elle va évidemment pas bien le recevoir, c'est pas possible, elle va être blessée. Alors que si tu l'anticipes en disant bah peut-être la relation, juste faire un bilan où on en est en fait, et de voir comment ça a évolué, c'est hyper sain. Juste, j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps, c'est qui font avant la fin du monde, je crois, ou vivons heureux avant la fin du monde, et où ils comparaient le couple comme une voiture qu'il faut tout le temps amener au garage pour checker si tout va bien, quoi. Mmh. Et vérifier, réajuster des boulons et tout ça, et je pense que c'est
contrôle technique,
mais c'est le truc le plus sain. Et on a tellement peur en couple, genre c'est comme ça que je le vois, mais c'est tout doit être figé parce que sinon mon monde va s'effondrer et ça se trouve je vais voir une petite faille qui va pas me plaire, je peux pas, etc. Bah que du coup on laisse l'ambiguïté s'installer, et c'est ce qui fait que ça explose avec des trahisons qui font beaucoup de peine, quoi.
Mais je rebondis sur ce côté où commence la tromperie, enfin les règles qu'on définit. Moi de ma perception, et je pense que c'est pour ça que j'ai toujours été fidèle, c'est que je considère que quand tu pèses le pour et le contre, donc d'un côté je mets le passage à l'acte où tu trompes quelqu'un et derrière t'as les remords, la culpabilité, souvent pour en fait une baise bourrée qui est pas forcément la meilleure de ta vie, et de l'autre il y a le jeu de la séduction sans forcément aller même jusqu'à embrasser quelqu'un, et ce truc là tacitement dans un couple il est toléré. En tout cas, la tromperie commence à minima quand t'embrasses une personne ou quand tu couches avec lui. Et pour moi, ce jeu de la séduction, c'est le frisson ultime qu'on recherche tout. Et la tromperie, c'est l'aboutissement, peut-être des fois le pas de trop que tu fais suite à un processus de séduction. Et ce jeu de séduction, il m'a toujours paru suffisant. En tout cas, enfin, parce que vraiment, bah, t'es plus ou moins droit dans tes bottes, même si c'est pas toujours très clair, et c'est franchement c'est pas méga cool de séduire quelqu'un d'autre quand t'es en couple, mais à la rigueur tu fais pas de faux pas. Ce sera intéressant de creuser pourquoi je le vois comme ça d'ailleurs, mais et ce jeu de la séduction il est vachement intéressant, et je voulais vous demander pourquoi, qu'est-ce qui fait que, alors vous trois qui avez trompé, qu'est-ce qui a fait que le jeu de la séduction n'a pas été suffisant?
J'aurais juste aimé, enfin, réagir à ce que tu disais sur le jeu de la séduction. Quelque part, ça peut être tacitement accepté dans une relation. Je dirais oui, et ça dépend encore de quel type de séduction on parle. Et moi, je pense que dans la relation, par exemple, où j'ai pas trompé, j'ai pas séduit non plus. Et si j'avais séduit activement quelqu'un, je me serais sentie potentiellement en position de tromperie. Ce qui est tacitement accepté pour moi, c'est le fait que potentiellement tu te laisses séduire, tu laisses quelqu'un un petit peu, enfin tu restes un peu passif ou passive devant une situation de séduction. Mais le jour où mon mec ou moi, je commence à rentrer dans un jeu de séduction avec une personne, à envoyer des messages, à lâcher des likes, etc., bah pour moi, de manière assez similaire à une tromperie, je vais me poser les bonnes questions parce que ce sera un signal assez fort.
Pardon, moi, le jeu de séduction, pour moi, c'était vraiment genre en soirée, t'as bu un peu et puis tu dragouilles, quoi. Il n'y a pas de follow-up derrière par message ni rien.
Ok,
quoi.
Ok.
Ouais. Et pour répondre à ta question, Théo, pourquoi ça suffit pas le frisson de la séduction et pourquoi il faut aller jusqu'au bout? Moi, je pense 100% des tromperies que j'ai faites étaient décevantes, physiquement et même émotionnellement. Genre, je suis là, sur le moment, je peux pas me dire, ah, c'est trop cool. Je suis en train de dire, je suis en train de faire quelque chose qui me plaît qu'à moitié. Je suis en train de trahir quelqu'un. Je suis même pas en train de profiter vraiment de ce qui se passe. Donc, c'est généralement décevant et ça m'a pas empêché de le refaire à répétition, plusieurs histoires. Parce que je pense que j'essaie de me prouver quelque chose. Et le jour où j'ai arrêté d'essayer de me prouver quelque chose, bah j'ai arrêté d'aller jusqu'au bout de la tromperie, quoi. Mais parce que c'était un manque. Enfin, il fallait que je confirme par l'acte quelque chose que j'arrivais pas à m'autoriser moi. Alors soit c'était comme toi, Jojo, de me dire il faut que je me détache de la relation et en fait je me servais de la tromperie pour me sécuriser. Soit je me servais de la tromperie pour me prouver quelque chose. Mais chaque fois c'était plutôt un manque ou une peur plutôt qu'une vraie envie, quoi. Dans mon expérience, moi j'ai éprouvé les moments où on me dit tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. C'est le moment où je pète un câble et je vais voir ailleurs direct après, quasiment.
Je comprends.
Mais parce que c'est hors de question que on m'impose ça alors que j'ai pas accepté. C'est unilatéral aussi d'exiger l'exclusivité de quelqu'un qui est pas prêt de la donner. Et quand j'ai été en relation libre, le fait de me dire tu fais ce que tu veux avec les règles qu'on a définies ensemble, c'est-à-dire qu'il y a eu des trucs qu'on n'était pas d'accord, on a ajusté, on a trouvé un terrain d'entente. Et ben ça, après, j'avais aucun besoin d'aller voir ailleurs. C'était ok d'être tranquille parce qu'on m'avait rien interdit et que du coup ma liberté était respectée et j'avais pas besoin d'éprouver le fait que ma liberté m'appartenait toujours.
Moi je dis pas je veux pas que tu me trompes, j'espère que tu vas le faire. Si tu le fais, c'est pas grave, c'est fini, mais je te dirai pas ne le fais pas.
Ouais,
j'espère que tu vas faire, que tu vas me tromper. J'espère que tu vas me tromper de tout mon cœur.
Fais-le.
Mais finalement c'est quelque part qu'on soit fidèle ou infidèle, il faut que ce soit un choix pour que ce soit serein.
Le choix, il serait personnel ou collectif, enfin sous le prisme du couple?
Bah pour moi, c'est deux choix personnels qui doivent être alignés quelque part, en fait. Et,
non, mais c'est vrai. Non,
mais c'est ça en fait. Enfin, c'est un choix qu'on fait pour soi et c'est un choix qui vient respecter ses valeurs, ses besoins à un instant T et on espère que ça dure tout le long.
Je pense que quand ça se finit, de toute façon, quand une relation se finit parce que il y en a un des deux qui l'a trompé même sans le dire. Ça se finit tellement de façon vite et peut-être abrupte ou malhabile que l'autre il a forcément la puce à l'oreille. Et moi quand je me souviens et à l'époque quand je venais de me faire larguer, j'avais pas encore digéré ce qui s'était passé, j'avais pas process ce qui s'était passé, j'avais pas cette vision là de me dire ah mais en fait je me suis fait tromper un petit peu et je la première personne à qui je l'annonçais c'était à mon père et mon père m'a dit ah mais il y a un autre mec là-dessous quoi, enfin je l'avais raconté, il m'a dit mais ça sent mauvais, il m'a dit il y a un autre mec là-dessous et j'avais dit bah non enfin parce que effectivement il y en avait un et en plus je le savais mais pour moi elle avait été clean dans la relation libre et tout et elle me quittait pour d'autres raisons et mon père mais qui savait même pas que j'étais en relation libre il m'a dit mais il y a un autre mec là-dessous quoi et ça je trouve ça intéressant, c'est que quelque part même ne pas l'avouer, je pense qu'on s'en sort jamais vraiment avec de l'infidélité.
Et ça me fait repenser à ce qu'on se disait plus tôt sur le fait de est-ce qu'on formalise la relation, il faut en parler. Oui, je suis d'accord, il faut en parler, mais je nous permets un petit challenge collectif, c'est que je pense que on sait tous qu'en début de relation, il y a une zone très très grise où on est à la fois dans on est la bonne patte, on laisse un peu les choses glisser parce qu'on veut pas tout de suite se montrer sous le vrai jour de la demande, l'exigence et le casse-bonbon quoi, et le moment où ça devient d'un coup très sérieux et de se dire il faut se dire les choses, on le sait tous très bien que ça se fait pas en une conversation avec un papier, un contrat, un stylo et que quelque part c'est beaucoup plus fluctuant que ça et c'est ce qui fait aussi que ça rajoute selon moi de la complexité à comment savoir quand la conversation a eu lieu que la personne en face de toi n'a pas été dans l'acceptation pour faire plaisir ou pour que l'objectif long terme soit atteint de je veux être avec la personne et qu'est-ce qui relève véritablement de la volonté propre et du souhait individuel quoi.
Et ça c'est ce que tu disais tout à l'heure Jojo, c'est que en gros c'est deux individualités qui se rencontrent et qui forment le couple, mais là c'est à chacun de prendre sa responsabilité. S'il y en a un qui s'écrase entre guillemets volontairement ou involontairement, ça peut être conscient ou inconscient, bon bah tu vois, tu peux toi essayer d'aller vraiment t'assurer que l'autre est ok avec la décision qu'il est en train de prendre, mais au bout d'un moment tu peux plus porter sa conception à lui quoi.
Et il y a autre chose qui est très fourbe et on en parlait juste avant l'enregistrement avec Flo, c'est le moment où tu te rends compte que l'autre s'écrase un peu consciemment ou inconsciemment et que toi par souci de confort, parce que ça t'arrange, tu ne dis pas à l'autre attention t'es en train de t'écraser quoi. Et ça je pense qu'on l'a tous fait.
Oui, c'est ça. S'écraser à quel niveau?
Bah, par exemple, quand tu te rends compte que l'autre accepte ce que tu es en train de dire. Par exemple, mettons, début de relation, tu dis, ok, moi, je m'imagine bien avec toi, mais pour l'instant, je veux pas qu'on se dise tout de suite, je suis en couple, machin, parce okay. que tu as peut-être 2-3 plans Tinder sur le côté, tu vois. L'autre en face, à contre-cœur, dit, ok, je comprends. Parce que bah oui, lui ou elle veut viser le long terme. Tu vois très bien que cette personne accepte à contre-cœur, mais bon, toi, ça va te permettre d'avoir 2-3 mois pour pécho cette meuf que tu travailles depuis quelques semaines, ou j'en sais rien, mais donc voilà, ce moment où tu sais que l'autre accepte parce qu'en fait il a pas le choix.
Ouais,
quand tu lui dis oui, ok, on va sortir ensemble, mais juste donne-moi 2 mois pour me faire à l'idée. Bah, c'est rare que les gens soient, quand ils ont vraiment un crush sur toi, qu'ils disent, ok, bah non, c'est mort, moi je veux que ce soit maintenant, donc vas-y, c'est mort, il se passera rien entre nous.
C'est le problème entre vouloir séduire et vouloir être soi-même. Et on peut faire les deux, mais il y en a qui veulent tellement séduire qu'ils en oublient d'être eux-mêmes. Mais du coup, ils vont pas. Parce que je pense que justement, ce que tu disais, c'est qu'au début d'une relation, tu veux séduire, tu veux montrer que c'est facile, que tout va bien. Du coup, imaginons, t'es pas du tout monogame, mais que tu veux être toi-même, tu vas être amené à le présenter ou à le montrer, je pense, à la personne avec qui tu es.
Et c'est vrai qu'il faut le conscientiser aussi. Moi, ça a été long de me dire, c'est facile de tromper et de se dire, ah, j'ai déconné, mais bon, personne ne le sait. Et je le dis à personne, c'est pas mon identité, c'est juste une erreur. Et ça, et de sauter le pas et de dire, bah en fait, je veux plusieurs relations en même temps parce que c'est là ce que j'ai envie de vivre. Ça devient tout de suite beaucoup plus public, beaucoup plus identitaire et c'est compliqué.
Mais là, en me mettant par exemple avec mon copain actuel, la première question qu'il m'a posée au tout début quand on commençait à flirter, c'était « Ok, est-ce que maintenant on voit plus personne d'autre ?» Et c'était un peu le... Ça marquait le début de notre relation et moi, je trouvais ça un peu trop tôt. Du coup, au début, j'avais dit « Non, je sais pas, on va voir, on se laisse le temps. » Et j'ai vu que vraiment, il avait commencé à vraiment se dire, ok, on a une aventure à deux, on commence quelque chose à deux, que quand je lui ai dit, ok, maintenant je vois plus, enfin, c'est bon, on est vraiment fidèles l'un à l'autre, quoi.
Ouais. Parce qu'avant, il se protégeait aussi, peut-être.
Je pense que oui, c'est une forme de protection. Aussi, par ses expériences passées, ou par l'expérience passée qu'on a tous.
Mais du coup, je pense que sa posture était la bonne, pour le coup, par rapport à ce qu'on vient de dire. Enfin, il a bien fait de se dire, ok, moi, je vais pas me mettre à fond tant qu'elle n'est pas prête à ce que je...
Ça peut se comprendre aussi.
Mais là, c'est que des bonnes pratiques. C'est de, un, lui, il a posé la question. Deux, toi, t'as dit, là, je sais pas. T'as eu l'honnêteté. Et trois, lui, là, il est resté, tu vois, il s'est pas protégé en se disant, je vais aller voir partout ailleurs, je m'en fous et tout ça. Il s'est dit, pour l'instant, on est dans cette zone-là, j'accepte. Et puis après, je m'engage selon, enfin, je sais pas. Je
après, il l'a accepté, mais il l'aurait pas accepté super longtemps, je pense.
Oui.
Mais oui.
Big up.
Mais ouais, c'est vrai que c'est une bonne pratique.
Mais au moins c'est sincère, c'est un début sincère et vous avez évolué en même temps que votre relation et je sais pas, je trouve ça c'est plus clair pour tout le monde.
C'est fou comme j'ai l'impression que la conclusion de tous nos épisodes de mise à mal depuis le début, c'est qu'il faut communiquer, se dire les choses, mais que on fait encore plein d'erreurs tout le temps.
Oui.
C'est dur de communiquer.
Ah ouais.
C'est le plus dur, je trouve.
Puis on communique pas tous pareil, donc aussi c'est peut-être ça en fait un élément de fit qu'on peut rechercher chez les personnes avec qui on se met, c'est justement la capacité à se comprendre. Enfin, en fait, c'est d'avoir une communication qui est fluide. Et ça veut pas dire que quand c'est pas fluide, les autres ne savent pas parler. C'est juste qu'en fait, on parle pas tous la même langue, finalement, quoi.
Et puis, il y en a par communiquer, ils veulent pas dire parler, mais ils veulent réagir. Donc, parfois, on a du mal, quoi. Enfin, les gens, ils ont du mal à se comprendre, quoi. Il y a des gens qui aiment pas parler.
Ouais. Il y en a qui, quand ils parlent, sont pas honnêtes.
Aussi. Oui,
et il y a aussi différents contextes. C'est pour ça qu'on disait de réactualiser les discussions de couple dans deux contextes différents. Tu peux dire la même chose, c'est pas entendu pareil. Enfin, il faut vraiment insister, et pas se dire c'est bon une fois pour toutes, parce qu'encore une fois, ça c'est une ambiguïté qui servira à personne à terme. Enfin, il y aura toujours de la souffrance qui va sortir de l'ambiguïté, ça c'est clair.
Ouais, c'est sûr.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être trompé et qu'on vous le dise ?
Non, mais ça c'est une de mes grandes angoisses. Et après, je vous donne juste la parole, mais j'ai jamais su que j'avais été trompé. Des fois, j'ai des doutes et je les écarte tout de suite. Genre, c'est pas possible. Si j'ai pas la preuve, tu vois, je vois pas pourquoi ça rentrerait dans mon histoire personnelle de me dire j'ai été trompé. Et moi, je veux vraiment, si on me trompe, je veux que ça soit bien fait. Je veux jamais le savoir. Si je conclue,
je crois que c'est, je veux que ce soit bien fait. Pétale de rose, petite bougie,
champagne. Mais du coup, toi, tu veux pas le savoir.
Je pense que si je suis dans un rapport exclusif et qu'elle me trompe, non. En fait, je vois pas ce que j'en tirerais à ce qu'elle me l'avoue. À part elle se soulager elle, mais ça, elle peut le faire en me quittant, quoi.
Ouais, bien sûr. Je sais pas si j'ai déjà été trompée. En tout cas, on me l'a jamais dit. Donc je j'ai pas voulu savoir. Mais là actuellement, alors je sais pas si je le pense vraiment, mais je pense que enfin si on me trompait là, je voudrais le savoir. Mais je voudrais pas avoir les détails, je voudrais pas avoir sa photo quoi. Mmh. Je voudrais juste qu'on me dise OK, hier j'ai fait de la merde ou OK
Et tu projettes que tu le pardonnerais ?
Ça dépend, je pense. Ça dépend totalement du contexte. Je pense que le pardon, il peut se produire s'il y a explication, justement, s'il y a honnêteté, si on en discute. Tu vois, c'est pas « Ah, tu m'as trompé, ok, finito, quoi. » C'est « On en discute. »
Moi aussi, j'aurais envie de le savoir, ne serait-ce que pour que la bascule du pouvoir revienne dans mes mains, en fait. Si on te dit que qu'on t'a trompé, c'est cette fois-ci c'est à toi, de la même façon que l'autre a pris la décision de te tromper, cette fois-ci c'est toi qui as la décision à prendre, et il y a une sorte d'équilibre qui se crée, c'est genre ok, j'ai merdé, j'ai pris cette décision là sans te concerter, sans en parler, du coup bah voilà, je te le dis maintenant, et maintenant c'est toi qui as une décision à prendre, est-ce que tu me pardonnes ou est-ce que on fait autre chose. Mais quelque part en fait le dire ça rééquilibre, et je pense que c'est aussi pour ça que quand on culpabilise, on finit par le dire, c'est que c'est dire, ok, bah voilà, j'ai fait de la merde. C'est une volonté hein, quelque part d'avoir un châtiment ou une punition pour rétablir la balance, et le dire, c'est quelque part vouloir le réparer quoi.
C'est marrant, moi, j'ai au contraire, si on me le disait, je me sentirais extrêmement impuissant parce que c'est terminé. Elle me confronte un truc que j'ai pas choisi et je dois faire un choix que j'avais pas qui m'était pas présenté avant. Et en fait, et en plus, c'est très émotionnel. Tu vas pas choisir si tu vas le prendre chill ou si c'est, tu vas dégueuler ou si tu vas, enfin, vraiment, tu peux avoir des réactions hyper fortes, quoi. Donc moi, je pense que ce serait le comble de l'impuissance qu'on me le dise, et je trouve ça trop violent. Ça rétablirait pas du tout la balance pour moi.
Je comprends, mais est-ce que le fait d'être, enfin, quand t'es dans une relation, tu partages, bon, tu partages des moments, mais tu partages aussi du coup des amis. Logiquement, si elle te trompe, logiquement, si vous partagez des amis, il y aura forcément des amis qui le seront. Mmh. Et en fait, c'est peut-être bizarre, hein, mais moi aussi, c'est de me dire, bah, on a des amis en commun, on voit souvent des gens, la moitié, ils savent que je suis trompée, personne me dit. Je sais pas, je me dirais que là, ce serait même plus l'irrespect au niveau de mon copain, mais du coup, ça irait beaucoup plus loin au niveau de l'irrespect de mes amis. Mmh. Enfin, je sais pas, ouais,
c'est super intéressant. J'ai une méga anecdote dans ce sens-là.
Méga anecdote.
C'est que, effectivement, du coup, moi, mon ex, on était toujours ensemble et elle a présenté le mec qu'elle voyait à son meilleur pote, qui est aussi un pote à moi, et il ne lui a plus jamais adressé la parole. Machallah, mon pote, bien joué à lui.
Jojo, toi, tu
bah moi, on m'a trompé deux fois. Enfin, je pense qu'on m'a trompé trois fois, mais au moins deux pour sûr, puisqu'on me l'a dit deux fois. La deuxième fois, c'était trop bourré, j'ai pas fait gaffe. c'est arrivé comme tombée, ça. Enfin voilà, c'est arrivé quoi. Et j'étais là, et en fait, j'étais tellement pas impliquée dans cette relation. En fait, c'était le premier semblant de relation que j'ai eu après une grosse rupture qui m'a vraiment fait de la peine. Donc, j'étais pas dans une logique d'engagement. J'avais pas envie de vivre un truc hyper fort. Je voulais pas me mettre à nu. Je voulais pas créer de sentiments. Je voulais pas m'attacher. Et quand il me l'a dit, j'ai eu une forme de schizophrénie entre ce que mon corps m'a dit et ce que j'ai dit consciemment. Enfin, j'ai réagi en mode, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis finalement, est-ce qu'on se connaît si bien, quoi? En fait, est-ce qu'on peut vraiment parler de tromperie? Parce que moi, j'avais pas vraiment en tête qu'on était en couple.
Une vraie réaction de femelle alpha.
Voilà.
Et on se connaît si bien, t'as pas de race.
Voilà, ce qu'il a bien, ça l'a bien déstabilisé, mais parce qu'en fait, j'ai pas eu du tout d'émotion quand il me l'a annoncé. Et c'était vraiment en mode, mais est-ce qu'on est vraiment en couple pour que tu me dises que tu m'as trompé? Enfin, so what, quoi? Est-ce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas le fait que tu m'aies trompé, c'est est-ce que ça doit être un sujet? C'est est-ce que là, c'est un truc dont on doit parler? Est-ce que tu me le dis parce que derrière, t'as une action que tu veux prendre? Ou est-ce que tu me le dis, on ne sait pas pourquoi, quoi? Parce que moi, je sais pas quoi faire de cette information.
Putain,
voilà, je sais pas.
Je me mets juste à la place du mec, mais comme je sais pas comment réagir quand le, est-ce que c'est un sujet vraiment?
Non. T'as été méta. C'est génial.
C'est abusé.
Ouais. Et pour autant, après ça, donc au final, ça s'est apaisé. Et pour autant, après, dans mon corps, je me sentais pas à l'aise avec lui, quoi. Et donc, c'est rigolo parce que, enfin, c'est vraiment pas quelqu'un de qui j'étais amoureuse ou pour qui j'avais des sentiments. Mais quand même, ça a créé quelque chose. Et dans tous les cas, ça n'allait pas durer et ça aurait pas été une grosse relation. Et c'est pas pour ça que ça s'est fini un mois et demi plus tard. Mais il y a une vraie dissonance entre ce que mon corps, enfin, la manière dont mon corps a réagi et s'est un petit peu crispé à son approche, après qu'on ait eu cette conversation, et la manière d'en parler où j'étais hyper détachée et j'étais hyper froide. Et en fait, ça a été l'occasion de lui dire des choses assez dur et sans que je m'en rende compte, quoi. Je l'ai mis face à la réalité de notre relation qui n'en était pas une en lui disant, mais en fait, on se connaît pas, tu sais pas qui je suis, je sais pas qui t'es, donc est-ce qu'on peut vraiment parler de tromperie ou est-ce que c'est un sujet?
J'aurais vraiment pas aimé être à sa place.
Tu t'en rappelles?
Ouais, je m'en rappelle.
Mais je pense que c'est pas si surprenant que ça, dans la mesure où c'est quand même une annonce assez grosse. Et tu peux être en état de choc émotionnel et de telle sorte à ce que ton cerveau soit en mode, ok, là, il y a trop d'émotions qui arrivent, on bloque tout.
Ok. Eh ben, merci beaucoup. On va faire un petit tour de table de ce qu'on a retenu. Genre la petite morale de l'histoire. Je sais pas si on va garder ça dans le podcast, Théo. Là, je te le dis à votre voix.
C'est ce que je viens de dire?
Non, le petit tour de table.
Oui, voyons, moi j'avais une question plus ouverte à poser, mais en fait.
Ah bah vas-y.
On en a un peu. C'est mon idée de rubrique. Ça s'appelle le bac de philo. C'est juste une question ouverte qui est à la fois très simple et très compliquée. Et je pense qu'on pourrait inciter les applaudisseurs à répondre sur nos réseaux. La question c'est, est-ce que tromper c'est un grand acte de lâcheté ou de courage? Parce que en fait, de toutes les anecdotes qu'on a racontées aujourd'hui, bah en fait, parfois il y a les deux, quoi. C'est très très courageux de tromper quelqu'un qu'on aime forcément parce qu'on est attiré par quelqu'un d'autre, même s'il y a des meilleures façons de le faire. Et en même temps, parfois c'est lâche et c'est pour éviter de s'avouer un désamour ou je sais plus quels étaient tes mots, Jojo, mais c'était un échec.
Un aveu d'échec.
Un aveu d'échec, exactement. Voilà, et j'ai conscience que c'est une patate chose et qu'en fait il n'y a pas de bonne réponse à apporter, donc amusez-vous bien.
C'est rigolo. Ouais, je te sens qu'il boue.
Ouais, non, pour moi c'est catégorique. C'est je ne vois absolument aucun signe de courage dans la tromperie. Alors du coup, enfin, je suis assez, enfin, pardon. En fait, ça m'a à moitié déstabilisée comme question d'ouverture parce que
c'est le but, c'est le bac de philo.
Parce que j'imagine qu'il peut y avoir plein de tensions qu'on identifie dans le fait de tromper ou pas tromper. Est-ce que c'est un acte sincère? Est-ce que c'est un acte individualiste? Est-ce que c'est de l'égoïsme? Est-ce que c'est pour la santé d'un couple? Enfin, j'imagine plein de choses. Mais alors, courage, intéressé d'avoir des personnes qui trouvent ça courageux qui m'en parlent, parce que pour moi, c'est
ouais. 36-15 comme Jojo.
Courageux peut-être de s'imposer. Un dilemme à soi-même, à la limite, mais
voilà. Moi, c'est plus sur une échelle de courage, parce que je pense que c'est plus courageux d'avouer à quelqu'un qu'on est attiré par quelqu'un d'autre, et voilà. Mais par exemple, courageux par rapport à la lâcheté de se complaire dans un couple qui nous va pas très très bien, de savoir qu'on est mal, et d'ignorer tout ça, et d'éviter d'en parler, par exemple.
Ouais, mais t'es pas obligé de tromper pour sortir d'une relation qui n'est pas satisfaisante, et donc
c'est une question ouverte, hein. Moi je suis pour poser la question.
Non, c'est pas moi qui l'ai posé, hein, j'ai sur internet.
c'est moi qui l'ai posé, mais j'ai un avis, mais j'ai pas envie de partager mon avis vu que c'est moi qui pose la question.
Non, mais c'est une très bonne question, et je pense que, alors, comme Jojo, je partage le fait que c'est pas courageux de tromper. Moi je me suis jamais senti courageux. Je me suis senti plus, comment dire, il y a une forme d'honnêteté dans le fait de tromper vis-à-vis de moi-même, en me disant, bah en fait c'est un aveu d'échec de moi à moi. Mais ce que disait Lily en début d'émission, c'est que je pense que quand il y a des critères avant de se rendre compte que tu vas tromper la personne, de dire ne serait-ce que tu as envie de le faire, bah là le courage il est de pas commettre l'acte, de t'avouer qu'il vaut mieux être seul et de se désengager avant de faire souffrir tout le monde, toi y compris, quoi.
Je plus sois.
Moi je pense que le vrai courage c'est de fixer les règles au début et d'oser les réactualiser et d'être vraiment honnête dans ce qu'on attend et aussi de laisser à l'autre l'opportunité de dire des trucs qu'on n'est peut-être pas prêt à entendre aussi au moment où on fixe les règles. Ça évite de se faire beaucoup de mal après lorsqu'elles sont rompues, quoi. Voilà. Et ben merci beaucoup Lily, merci beaucoup Jojo.
Merci beaucoup.
Merci Théo. Très cool.
Merci Flo.
Aux applaudisseurs. Du coup, on vous fait des bisous
et on vous applaudit avec le cœur.
Merci d'avoir écouté cet épisode.
On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram, ça compte beaucoup pour nous.
De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Bisous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com.
Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.